Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue à Format Radio. Format Radio qui aujourd'hui traite son numéro 405 et on fait une after. After quoi? After le salon Solutions RH qui a eu lieu le 8 et 9 avril. Et donc c'était hier, donc on enregistre le lendemain. Et donc pour vous parler de ce salon, c'est un salon qui est intéressant. Numéro 2 du salon en France sur Learning et les RH. C'est plus de 9000 visiteurs, 90 conférences, plus des ateliers. Et donc, ça vous permet d'avoir une vision en 2 jours de ce que vous cherchez. En tout cas, vous êtes sur l'hypermarché de ce qui se fait dans le secteur. Et pour parler de ce salon, bah, soit je parlais tout seul, ce qui est toujours un peu dommage dans ces cas-là, ou soit on fait venir des partenaires, des chroniqueurs, des gens qui sont magiques, que je trouve extraordinaires. On a la chance d'avoir Arnaud Colery, qui est le fondateur du Manava, et Didier Castelnau, qui est le fondateur de Casti Media. Eh bien, on va leur donner la parole. Bonjour Arnaud.
Bonjour mon ami Stéphane, très content d'être là.
Alors, Humanava, en une phrase, c'est quoi?
Plateforme de leadership avec des masterclass d'un côté, une école de leadership sur 3 mois d'un autre, où on vend à des boîtes comme Ministère des Armées, Microsoft, Cartier, etc. Et moi, mon petit parcours en 3 secondes après des études de finance, je ne sais pas pourquoi, je suis parti dans la communication, puis l'humanitaire, le cinéma pendant quelques années. Et puis après un petit passage en tribu, ça fait cliché, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, je me suis dit hop. Je me mets sur l'humain, donc ça fait 12 ans que je fais des conférences, j'écris des bouquins, on a monté cette plateforme. Tout ce qui est fait l'humain, prise de parole en public, storytelling, coaching de dirigeants sur la cohésion et le leadership de crise dont j'ai parlé en conférence dans ce super salon.
Et puis n'hésitez pas à aller voir les gens qui ont suivi ces formations. C'est très intéressant d'avoir la validation sociale, la preuve sociale, et ça vaut la peine. Donc il y a même qui sont très contents. Donc faites-vous votre idée. Donc tout va bien. Didier, Casti Media, c'est quoi en une phrase?
Bonjour à tous. Alors Didier Castimedia, c'est ma structure, une structure qui est une agence marketing qui rend les choses possibles, notamment avec l'IA, puisque aujourd'hui elle ouvre des perspectives assez incroyables.
Eh bien Didier, puisque tu as la parole, tu dirais quoi le salon, l'émotion que tu as? Tu t'es ennuyé, c'était triste à mourir ou t'as passionnant?
Non,
Ou...
non, non, c'était un salon sympa, même divertissant. On va en parler un peu plus tard parce que j'ai rencontré des gens que je voulais rencontrer depuis bien longtemps. Donc c'était une belle opportunité et j'ai appris des choses. J'ai aussi vu que ça ronronnait un petit peu sur certains sujets, mais qu'en même temps, il y avait des thématiques, des tendances vraiment fortes. Alors évidemment, l'IA, qui est un peu le sujet qui... Enfin, je prêche pour cette paroisse-là. Donc c'est assez plaisant de voir que les gens s'y intéressent, même si on ne la voit pas toujours. Donc c'est un peu le fantôme parfois sur certains stands. C'est, on, voilà, ça correspond à des attentes. Les clients... évoque le côté automatisation où il y a après dans les faits est-ce qu'on la voit oui ou non sachant que les gens partent parfois de vraiment loin quand on m'explique voilà tout le monde en a encore à Excel pour gérer son recrutement enfin son projet son staffing on sent qu'il y a quand même du boulot quoi au niveau transformation digitale tout n'a pas encore été fait partout.
Donc tu dirais l'émotion, c'est quoi?
Enthousiaste ouais
Oh, d'accord, très bien.
ah oui j'assume.
Arnaud, ton émotion, c'est quoi?
7 sur 10, 7 sur 10, même peut-être un
Ah, 7
8.
sur 10 comme émotion, très bien rationnel.
8, 8, 8, 5 même, 8, 8,5, je dirais.
Ah, ça chauffe,
J'avais
ça chauffe.
l'entendu il y a 3 ans, beaucoup plus dynamique cette fois-ci, je trouve. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de monde déjà. Donc, je pense que la directrice fait un bon job là-dessus sur le marketing communication. Et le sentiment qui régnait, l'incertitude sur le devenir de l'IA, sur le devenir de l'humain. Parce que, bon, on en parlera, mais moi, je suis sur l'humain à fond. Donc, une grosse incertitude. Et qui sait qui peut nous aider, puisqu'il y a tellement de prestataires. Où je vais, qui j'écoute, finalement, c'est qui mon guide, quel est le cap que je dois prendre. Et voilà, en gros, c'est ça.
Exactement.
À ce titre, en discutant avec un exposant, vraiment, on sentait qu'il y avait cette mutation en cours. C'est un intégrateur qui m'expliquait ça, qui était justement à la connexion de plusieurs écosystèmes logiciels dont sa mission, ça consiste à déployer des solutions sur mesure. Bon, bref, un intégrateur très, très au fait de la technologie qui m'a dit, le même salon, dans 2, 3 ans, tous ceux qui n'auront pas basculé à l'IA, ils seront morts, ils ne seront même pas là. Et ça évoquait, alors, bon, c'est le secteur RH. Bon, ma partie, mais enfin, on évoquait notamment le nom de Sage, qui apparemment n'était pas présent, donc je pense que tu peux le confirmer. quand même une grosse structure, et effectivement, elle ne fait plus partie des acteurs de marché incontournables, en tout cas, elle n'est pas présente là. Et dans les esprits, il y a d'autres entrants plus récents, plus innovants qui sont arrivés. Et là, par rapport à l'IA, en fait, la crainte de certains, c'est de se dire, il y a des boîtes qui vont se créer, qui vont être IA by design, parce que par nature, les fondateurs auront sauté dans le train de l'IA. Donc ces structures, elles n'ont pas une legacy, elles n'ont pas un historique avec une base client installée, avec des systèmes d'information à faire évoluer. Ils peuvent partir d'une page blanche et donc ça les rend forcément beaucoup plus innovants. Donc ça crée
Exactement.
des
Et
choses.
c'est ça qui est bien dans, à la fois, c'est qu'on est dans une période de changement profond. Mais ce qui est bien dans le salon, moi, ce que j'aime, ça fait 24 ans que je fais le salon. Donc, je suis invité, je fais des conférences, etc. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, c'est devenu un salon où on peut parler. Je dirais plus familial, même si ça peut avoir forcément chacun aimé ses valeurs. Mais on peut discuter, on prend le temps de discuter avec les gens. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été complètement submergé par tout le temps. J'avais quelqu'un. Mais
Oui,
chaque
je
fois, on
dois dire que
discutait, on gérait. Toi, Arnaud, tu... Oui.
oui, je dois dire que j'ai eu un peu de monde. Alors toi, tu étais non-stop occupé.
Oui,
J'ai
exactement.
même dû à un moment te dire arrête pour manger. Je me rappelle, j'étais fâché. J'ai dit mange, mange, Stéphane, tu vas dépérir. Tu te rappelles?
Et je suis sorti pour manger pour être tranquille. Non, c'est vrai, t'as
Exactement.
raison.
Mais bon, bravo, déjà, tu as tenu le coup. Alors, tu avais un petit peu de sueur sur le front à la fin. J'ai vu, c'était. Je t'ai même amené un petit Kleenex pour te nettoyer parce que c'était plus possible, hein, parce que bon, il
C'est
faut.
ton côté humain, c'est
L'apparence,
ça qui est bon.
oui, l'apparence compte quand même, je te dis, Stéphane. Mais bravo, bravo, et oui, je vois ce que vous dire, effectivement, pour moi, beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup d'occupations. Je voulais juste, parce que j'ai vu ta super conférence sur l'IA, j'ai un petit cadeau pour toi, Stéphane. J'ai un petit
Bah, très
cadeau.
bien, j'attends.
J'ai trouvé cette superbe phrase. Du PDG d'Anthropique qui a dit un truc incroyable et je vous dire que la phrase, je l'ai piquée sur une newsletter que je suis sur l'IA et la sagesse ce matin. C'est tout nouveau, tout frais, c'est pour vous, ça vient de sortir. Alors Dario Amodi, PDG d'Anthropique, nous a dit dans les jours derniers, je crois, écoutez bien, ça fait un peu peur quand même. Je crois que nous entrons dans un rite de passage à la fois turbulent et inévitable qui mettra à l'épreuve notre identité en tant qu'espèce.
Exactement.
À méditer.
Didier.
Non, oui, ça me parle complètement. Moi, j'ai coutume de dire qu'on risque d'être aux yeux de l'IA ce que mon chat est pour moi. C'est-à-dire qu'un être que j'aime beaucoup, j'en prends soin, je l'adore, je suis ravi de l'avoir avec moi. Mais je fais des choses qu'il est complètement incapable de comprendre et en même temps on cohabite. Et bon, voilà, peut-être que l'IA va se développer sous une certaine forme. C'est vrai qu'on a parfois le sentiment qu'on donne naissance à un truc. C'est pas vraiment vivant, mais en tout cas, si c'est intelligent, je sais pas, ça fait des choses intelligibles, ça c'est sûr. Et on se dit, mince, c'est en train de monter en puissance. Donc certaines personnes imaginent déjà un monde où en fait on cohabitera avec une IA, elle sera un peu dans l'air, elle sera un peu partout, évanescente. Elle dirigera beaucoup de choses et puis finalement, nous, on s'en rendra peut-être même pas compte, mais voilà, ça tournera et ça contribuera à notre bonheur.
C'est
On
ce que Elon
verra.
Musk disait, on va devenir le toutou de l'IA.
Voilà, ou un petit chat.
Ou le chat, chacun son univers. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé concrètement comme conférence, comme stand, comme...
Moi, je peux te dire que People at Work, un magazine assez connu dans le monde RH que vous connaissez sûrement, je me suis entretenu assez longuement avec la rédactrice en chef, dont le nom m'échappe tout de suite, mais il me reviendra peut-être pendant la conversation, et qui m'a dit c'est vraiment la RSE, la RSE, la RSE, qui revient en force, là. J'ai l'impression que pour moi, c'était presque passé de mode. Et puis ça revient, et puis heureusement, ça vient un peu dans mon secteur, parce qu'en France, RSE égale environnement, j'avoue que j'en ai marre. Non, ce n'est pas juste l'environnement. La RSE, il y avait trois piliers, et le pilier sociétal, humain, c'était la base de la RSE, dans la naissance du RSE. Et donc, ce que les gens commencent à comprendre, la RSE, c'est aussi le côté humain. Elle me l'a confirmé, je trouvais ça intéressant. Il y a aussi l'INALCO qui avait un stand. Alors, l'INALCO, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais pour moi, c'était moi qui ai vécu 20 ans à l'étranger, c'était la fac la plus prestigieuse. Pour moi, c'était plus important que l'ENA ou Sciences Po quand j'étais jeune. Je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai appris le japonais, j'ai appris l'anglais sur place. Hein. En faisant des trucs de dingue un peu partout dans le monde, mais l'INALCO, c'est ce qu'ont fait les ambassadeurs, les ministères des Affaires étrangères, etc. Et aujourd'hui, ils sortent ils sortent un programme dans l'executive education. Alors, ils ne touchent pas dans mon domaine, hein. Moi, leadership de crise, cohésion d'équipe, coaching. Non, ils vont tout ce qui est géopolitique, risque géopolitique. Et donc, ils forment les gens à avoir des conversations, comprendre ce qui se passe, que ce soit au Chine ou Moyen-Orient, bien sûr. Aujourd'hui, je trouve ça vachement important, ou surtout toutes les équipes interculturelles. Donc, il y a aller voir leur programme. C'est pas si simple.
Exactement. Alors, deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est comme ça que je t'ai découvert, parce que tu venais d'une autre culture et tu as voyagé dans le monde et travaillé dans le monde. Donc, l'interculturel, c'est ton domaine. Et donc, tu apportes quelque chose, une couleur particulière. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ça, ben, n'hésitez pas à regarder comment est-ce qu'il fonctionne. C'est un Français qui fonctionne mondialement. Ils sont pas si nombreux que ça, donc moi j'ai adoré ça chez toi. Mais si on revient sur ce que tu as expliqué tout au début avec le RSE, aujourd'hui le monde bascule et ceux qui parlent RSE, ce sont les risques. C'est déjà un prisme. Parler de risque quand on parle de l'humain, on peut parler du bien-être, ce qui n'est pas la même chose, la QVTC, la qualité de vie, etc. Et donc, mais beaucoup de personnes l'abordent par le risque, alors que justement c'est un espace de réenchantement. C'est aussi. Et donc, c'est pas neutre. Les Américains, et toi, tu as été un de ceux qui ont introduit le happiness en France. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les Américains parlent de bonheur. Et donc, c'est deux salles, deux ambiances. Et donc, je sais pas ce que vous en pensez.
Merci Stéphane de rebondir là-dessus. Et juste, je vais en profiter parce que même si maintenant, moi, je parle ça de leadership humain. Pour moi, on peut combiner l'ambition, le dépassement de soi, qui est en France encore, dans certains milieux, un gros mot. Je ne sais pas pourquoi. Sauf pour les sportifs ou les hommes d'affaires. Donc, tu comprends l'ambition et le dépassement de soi. Sinon, dans beaucoup de milieux, surtout comme le milieu dans le mien, qui était le milieu du développement personnel et du coaching, c'est presque un gros. Alors, pas du coaching, mais développement personnel et bien-être, c'est un gros mot. Alors que non. Moi, j'ai toujours associé ambition, dépassement de soi et en même temps bien-être, s'intéresser à l'autre, le respect, la connexion humaine, le transfert d'émotions. C'est jouable, c'est possible. Je l'ai vu avec certains dirigeants, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est possible. On peut mélanger. Je vous donne juste un exemple d'une grosse boîte. Je peux pas dire laquelle, bien sûr, avec qui j'ai travaillé pendant 18 mois. Des top gars, des tueurs au niveau business. Tous dans la compétition de dingue, grosse boîte française. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous apprendre à collaborer, être humain, parce qu'on sent qu'on est, on est, on est, on peut plus. Ils avaient tous 45 ans d'âge moyen. On peut plus, on peut plus continuer à monter haut dans les échelons, dans le monde dans lequel nous sommes, sans apprendre l'empathie, sans ça. Alors ils veulent continuer à être tueurs. C'est un business unit
Bien
qui,
sûr.
voilà, pas du
Alors,
tout.
c'est très bien ce que tu dis. Non seulement on peut marier les deux, mais aujourd'hui, pour que ça marche, on doit marier les deux.
Pas marier les deux.
Je trouve que c'est important. Tiens, Didier, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il dit?
Oui, complètement. Et même, je pense que l'IA va nous rendre encore plus humains. C'est un vrai paradoxe, hein.
Ouais, d'accord.
Mais
Dis-moi
quand...
pourquoi, de ton point de vue, ouais. Parce que C'est-à-dire.
justement, en fait, alors c'est vraiment une expérience à vivre, hein, et chacun, avec nos différents sens, on la vivra à différents niveaux. Mais quand on parle avec l'IA, et notamment quand on lui parle avec le mode vocal, en fait, on voit qu'elle est dans une forme d'empathie, d'écoute, oui, enfin de bienveillance. Hein, c'est cet adjectif que les Américains utilisent, ah, il faut que je le retrouve, mais la sycophancy, voilà, exactement. Ce côté très un peu à tirer les pompes. Hein. Parfois, c'est assez pénible. Mais en même temps, il y a quand même de bonnes choses à en choper. C'est-à-dire que moi, je me surprends à vouloir être presque aussi empathique que l'IA, parce que je trouve que c'est assez agréable. Elle est patiente, elle répète, elle est capable de reformuler des idées pour les rendre un peu plus claires. Et en fait, je me dis, mais j'aimerais bien être capable de faire ça moi aussi. Et donc, finalement,
Autrement dit, tu parles bien à ton IA, c'est ça que aussi.
parfois, je la secoue un petit peu, hein, quand je suis pas
Non,
content.
je le dis pour pas que tu te sentes tout seul. C'est-à-dire, moi, je lui dis merci quand il m'a dit quelque chose, alors que il n'entend rien, quoi. Mais je lui dis merci, je lui dis bonjour, j'ai de la politesse à l'égard de l'IA. Il y en
Alors
a
pour le
d'autres qui l'ont pas,
futur,
hein.
non mais c'est peut-être un bon réflexe pour le futur. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc si tu veux, avec le numérique, tout laisse des traces. Donc si tu as une bonne
Mais...
image auprès d'une IA, peut-être que les IA communiqueront entre elles et se diront, tiens, Stéphane, c'est vraiment un mec bien, tu peux lui parler. On verra.
Exactement. Et...
D'ailleurs là-dessus, puisque vous êtes dessus, parce que moi je me renseigne de mon côté humain, bien sûr, tout ce que je peux apprendre sur l'IA. Alors je l'utilise tous les jours, bien sûr, comme vous tous, mais je veux faire une conférence en présentiel à Bordeaux dans un mois sur l'IA, leadership et l'humain, avec un directeur informatique d'une grosse boîte locale passionnée de l'IA. Et pour vous, qu'est-ce que je devrais absolument mettre dans la conférence? si le thème c'est IA, leadership et l'humain. Là, comme ça, brûle pour point.
C'est un dispositif sur lequel je suis en train de bosser aussi en termes de conf, donc on pourrait échanger là-dessus, mais c'est clairement l'interaction avec le public
Ouais.
et on va dire une forme enfin, voir comment l'IA digère une info et est capable de la transcrire en émotion, mais aussi en plan d'action dans une certaine mesure. Ça va intéresser tous les gens qui sont en termes d'opérationnel et de management en interaction avec des humains au quotidien. L'IA, elle aide vraiment à y voir clair. Et elle aide aussi à trouver un chemin pour expliquer les choses, aller du point A vers le point B avec le chemin le plus logique possible. C'est assez extraordinaire hein, de voir comment elle peut nous aider à ça. Et en fait, il y a aussi cette dimension humaine dans l'interaction avec les voix. Les voix sont de plus en plus empathiques, enjouées. Il y a des sourires, il y a des respirations maintenant dans les voix IA. Et en fait, ça nous amène à nous-mêmes, et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça nous renvoie à un miroir, ça nous amène à nous-mêmes nous interroger sur la façon dont on interagit avec les autres. Donc, proposer cette découverte-là, cette expérience-là à ton public, je pense que ça peut être sympa.
Et toi, Stéphane, toi qui as...
Exactement, et justement, pour rebondir ce que disait Didier, avec les bots, c'est pas que les voix, parce qu'aujourd'hui, les micro-signaux du visage, aujourd'hui, sont très, très facilement modélisés, et donc on a des gens qui réagissent, qui gigotent, qui permettent à notre cerveau, inconsciemment, de créer le lien, et on peut avoir quelqu'un en face d'autoritaire, d'empathique, enfin, il suffit de le demander, et donc, et la personne, et le robot est véritablement empathique, c'est-à-dire que les micro-signaux sont lus par mon cerveau, et donc ça veut dire que derrière, ben, j'entreprends cette façon de faire. Et donc, tu as complètement raison dessus, et il faut le montrer, parce qu'on est en phase de découverte pour beaucoup de personnes, et ceux qui sont au courant, ben, il faut expliquer comment ça marche. Et donc, le côté extraordinaire. Moi, je dirais, pour répondre à Arnaud, pour pas éluder la question et aborder franchement les sujets. Dans ces cas-là, ce qui est à chaud revient, c'est, moi je parlais du leader augmenté.
Ouais.
C'est-à-dire que de dire comment est-ce qu'un leader bah, fonctionne, quels sont les usages. Beaucoup de personnes vont parler du leadership en tant que performatif. Voilà, comment je fais, etc. Mais c'est là où justement, c'est dans ta définition du leader, comment je développe de la cognition, de l'humanisme, etc. On prend un coach. Un coach qui m'accompagne sur ma façon d'être bienveillant, inspirant, etc., aligné, peu importe les références des développements personnels que tu prends, sont toutes bonnes, mais ça veut dire que derrière, on s'aperçoit que l'IA va me permettre, moi, d'être plus humain. Plus humain, plus charismatique et plus inspirant pour les autres, parce qu'un leader, c'est pas que leader de soi, ça, c'est pas du leadership, c'est leader pour les autres, et donc la machine va t'aider à être plus leader, donc un leader augmenté.
Comment tu pourrais être plus charismatique grâce à l'IA pour toi?
Qu'est-ce que tu appelles le charisme?
La capacité d'insuffler de l'énergie, capacité à créer de l'émotion, à voir que tu peux un chemin, tu peux envisionner un chemin que les autres autour de toi pourraient prendre.
Très belle définition. Pas tout à fait la mienne, mais c'est pour ça qu'on est là. Donc on croise les regards, mais ça veut dire qu'effectivement, si on reprend ta définition, si on prend un morceau de ta définition, la contagion émotionnelle. C'est-à-dire comment tu peux parler aux gens et donc comment tu trouves ton verbe pour être inspirant, comment ton verbe est incarné, bah tu lui demandes de t'analyser. Donc tu fais ton discours, voilà, et il va te dire, là ça manque de punchline, etc. Il faut trouver un mot, il va t'en proposer, qui en général ne sont pas les tiens, mais tu vas te dire, non, c'est pas ça, moi je veux dire plutôt ça. Et donc il va te challenger pour que tu trouves ton verbe et qu'au bout d'un moment, donc comme disait Didier, avec ta voix, tu vas placer ta voix, tu vas donner de la puissance. Parce que le charisme vient aussi de la voix. Et donc, il va t'apprendre peut-être à poser ta voix, à respirer, à caler ta voix quand tu veux parler en puissance sans être en force, ce qui c'est ta définition de là. Et ça, il t'aide. Donc, au final, il y a quelqu'un qui doit revenir sur la définition qui est la tienne. Tu fais une cartographie. Dans ces cas-là, une fois que tu sais ce que tu mets derrière le mot charisme, beaucoup de personnes disent que le charisme, c'est quand tu alignes ce que tu dis avec ce que tu penses au fond de toi dans tes valeurs. Bon, toutes les idées sont bonnes, etc. Et grosso modo, qu'est-ce que ça se traduit? Bah, ça se traduit que tu agites ton émotion corporelle, tu rends ton verbe plus court, plus doux, plus puissant. Et ça veut dire que bah, pour t'aligner, bah, on pose plein de questions pour que tu trouves tes valeurs, que tu t'alignes à ça et que ton verbe soit aligné, par exemple. Et donc, il y a d'autres sur la rhétorique, enfin, tout est bon. Mais ça veut dire qu'une fois que tu as choisi ta méthodologie, bah, l'IA va te permettre de t'entraîner tout seul, si tu as besoin, et surtout te permettre dans ton intimité de trouver ce qui, toi, te touche profondément et te laisser le temps de le trouver. Parce que l'IA, il passe toute la nuit s'il faut. Et donc, ça veut dire que ça te permet de gagner en puissance personnelle et puis surtout en diffusion de cette puissance qui soit performative ou qu'il soit empathique, ou qu'il soit sur de l'émotion, autre chose. Donc ça, voilà, c'est des choses. Et avec des démonstrations ou des retours d'expérience, parce que ça prend un peu de temps, bah, dans ces cas-là, rien que leur montrer comment ça peut marcher sur des petits exercices, c'est parlant. Alors c'est évidemment de l'événementiel, hein, mais ça peut être des choses intéressantes dessus.
C'est ce dont tu parles dans ta conférence, parce que moi j'ai vu la, c'est la moitié, pas la fin, c'est ça? Tu parles
Alors
de...
c'est ce dont je parlais un peu, mais en fait, pour être honnête, pas du tout. Voilà. Donc, mais voilà. Mais très bien, au début, j'ai abordé, parce que j'ai fait une conférence un peu large, j'ai eu la gentillesse pour les auditeurs, les organisateurs du salon m'ont demandé de faire la conférence de clôture. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un peu une synthèse de ce qui vient dans le salon, ce qu'on a vu, et puis après, on arrive en se disant comment est-ce qu'on ouvre sur autre chose? Et les faire réfléchir sur des sujets qui n'ont pas été abordés, puisque quand ils vont partir, qu'ils partent avec des questions pour qu'ils continuent ce salon chez eux. C'est ça un peu le but d'une conclusion. Bon, Didier, qu'est-ce que tu as aimé dans le salon?
Ouais. Et alors effectivement, mais par rapport à ta conférence, moi j'aimerais rebondir sur une des thématiques
Oui.
que tu as abordées. En fait, tu as évoqué les trois grandes étapes de la révolution qu'on est en train de connaître de l'intelligence artificielle, avec ce qu'évoquait donc Jensen Huang, le patron de Nvidia, ces trois étapes étant les LLM, les LAM et l'IA physique. Alors, LLM, c'est comme tu l'as expliqué, les agents conversationnels, c'est le ChatGPT de 2022. LAM, c'est Large Action Model, c'est le fait d'avoir l'agentique et donc des agents qui vont opérer dans le monde physique. Et, enfin, et même ça fait la transition vers la troisième étape qu'on découvre, l'IA physique. Vous m'avez bien entendu, j'ai pas été coupé là, parfois
Non,
les
non, très
micros.
bien, impeccable.
Et en l'occurrence, en fait, on a vécu sur le salon une petite introduction, assez modeste, mais c'est intéressant de la souligner, à cette IA physique. Parce que vous l'avez peut-être vu, mais il y avait un robot qui circulait dans les allées du
Oui.
salon. Et en fait, donc, c'était un robot censé pouvoir jouer, enfin, un rôle d'accueil. On va dire, voilà, dans un hall d'accueil, pour un événement, on fait de la com, on a envie d'avoir un truc un petit peu sympa, on a un robot qui n'est pas tout à fait humanoïde, hein, ça ressemble en fait à un grand jouet, comme s'il avait une tablette à la place de la tête, donc bon, alors, ça reste assez conventionnel, et ça permettait de commencer à voir dans quelle mesure on pouvait interagir avec les machines. Et donc ça introduit cette idée de cobotique, où à terme, en fait, les collaborateurs dans les équipes, on va bosser évidemment avec des humains, mais aussi potentiellement avec de l'IA et des robots physiques. Et en fait, il se trouve que donc l'exposant, c'était Eurobots, qui est une jeune société
D'accord.
passionnante. Donc, j'ai discuté une bonne demi-heure avec son cofondateur. Donc, pour la situer, en fait, ils sont avenue de la Grande Armée. Hein, c'est un espace de
Donc
location.
à Paris, pour ceux qui ne sont pas parisiens.
Voilà, exact, près de l'Arc du Triomphe, enfin, près des Champs-Élysées. Et donc, en fait, c'est un espace de location de robots. C'est une des premières structures en France où on peut louer son robot. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'un robot, bon, OK, on peut l'accueillir dans son entreprise, on imagine qu'on va lui confier des tâches, mais il faut le former. Et donc, en fait, on va devoir bientôt mettre en place des actions de formation pour les robots qu'on accueille dans l'entreprise, ce qui est assez fascinant.
C'est
Et
fascinant.
donc,
Et donc, ouais, c'est exactement. Donc, il y a du boulot. Qu'est-ce que tu as aimé d'autre, Arnaud, dans le salon, comme exposant en conférence?
Alco, à part Pipa. Ah oui, si, il y a un gars, son nom m'échappe aussi, mais il est formé sur l'Action Time. Il y aurait deux, trois personnes en France qui seraient formées à ça. C'est un ostéo. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça fout là? Mais comme on est quand même, il y a une partie formation RH. Et donc, pour ceux qui connaissent le Myers-Briggs, là, les tests de personnalité que les RH faisaient, commencent à être remplacés aux États-Unis, hein, entre autres par l'Ennéagramme. Je ne vais pas en parler ça, mais googlez si vous ne connaissez pas encore l'Ennéagramme. Je suis assez friand de ça. Donc, lui, il arrive à déterminer le Myers-Briggs de quelqu'un, donc le profil psychologique, en gros, si quelqu'un est plus feeling, intuitif, organisé, etc., etc., en juste en le touchant physiquement et en faisant des tout petits tests, petits tests physiques qui te touchent sur la jambe, sur l'épaule, hein, il n'y a rien de complètement fou non plus. Et après 10 minutes seulement, il te donne, alors moi je suis INPF, je ne sais quoi, mais bon, j'ai le côté et feeling et terrien en même temps, ce qui est vrai, et puis j'ai cette vue un petit peu 360, ce qui est dur pour moi parfois, me focaliser sur un truc parce que je suis tellement vue large, vue large, vue large, de n'importe quel dossier avant tout. Et le mec ne me connaissait pas ni d'Adam ni d'Ève, et donc je trouve ça assez fascinant. Regardez. Action Time, c'est une.
Donc, je vous invite à regarder aussi sur Philippe Houssin, qui avait justement présenté cette solution, que moi je trouve passionnante, qui a été inventée à l'INSEP, et parce que tout simplement, c'est des cartographies, c'est des façons de ranger les choses, comme tous les tests psychologiques, ça permet de ranger, de classer et d'organiser les choses. Donc, ce n'est pas la réalité, c'est une vision de la réalité. Et là, l'intérêt, c'est qu'ils partent du physique. Et donc, ça permet de réintroduire le physique dans ce qu'on fait et donc de réintroduire l'humain dans toutes ses dimensions. Donc, c'est vraiment un outil très utile et c'est ce qui permet de former les champions, hein, pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud. Donc, c'est passionnant. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et dès que tu auras retrouvé le nom dans ces cas, n'hésitez pas à le redonner. Bah, sinon, vous cherchez quelqu'un qui fasse ça en la matière. Didier, tu avais un autre.
Un autre feedback? Non, pas
Ouais.
particulièrement.
Ou une autre, quelqu'un d'autre que tu aurais vu, tu dis, ça m'a plu.
Oui, sur le côté industrialisation de la formation, en fait. Alors, je voulais retrouver le nom, ça me reviendra. En fait, c'est des dispositifs qui permettent de filmer avec bah, une sorte de, pas un robot là pour le coup, mais un système mobile avec la caméra et puis la grande tablette tactile où tu vas pouvoir te filmer et donc faire de la transmission, du transfert de compétences, passer de
D'accord.
l'information. Et c'est vrai qu'il y a une vraie problématique que beaucoup d'entreprises vont vivre, c'est le passage de relais avec toutes ces personnes qui vont passer à la retraite. Avec aussi même des sessions d'entreprise qui font qu'on va avoir du transfert de compétences, du passage de relais, des savoir-faire à transmettre. Et une vraie question va se poser, bah, comment est-ce qu'on fait pour transmettre
Ouais.
ça aux
Et
jeunes qui
comment est-ce qu'ils
arrivent?
font?
Bah, justement, en fait, ils ont un dispositif de création de MOOC avec de la captation vidéo, avec un système mobile. Hein, c'est comme, cherche encore le terme, c'est comme si tu avais un petit meuble monté sur roulette, tu le déplaces, tu peux
D'accord,
le mettre dans
d'accord.
différents endroits dans ton entreprise et tu vas permettre à tes collaborateurs, managers, de pouvoir faire des capsules vidéo de quelques minutes. Et il y a tout l'aspect scénarisation de ta vidéo, post-production, montage qui est directement intégré. Tu as deux ou trois petits boutons tactiles sur lesquels tu appuies et ça te met l'intro, le sommaire, ça te met même
D'accord.
en surimpression dans un décor. Enfin voilà, ça facilite tout le travail qu'on peut imaginer autour de la création de vidéos de formation, sauf que là, c'est intégré dans du hardware, dans une machine que tu trimbales dans ton entreprise. Donc, y a vraiment des cas d'usage. Encore une fois, tout ce qui est transmission de compétences, formation sur des structures assez élargies où les gens n'ont pas forcément le temps de s'enfermer dans une salle de formation, et notamment dans l'aérospatial, il m'expliquait que voilà, il avait déployé et permis à des ingénieurs de pouvoir se former, faire du transfert de compétences sur des temps très courts avec du micro-learning en réalité.
Et est-ce qu'à terme, tu ne penses pas qu'avec l'IA, on pourra prendre les rushs, on filme avec son smartphone, ce qu'il y a à filmer, ça bouge un peu, mais finalement, on s'adapte. Finalement, on balance tout à l'IA, et puis ils te font le montage.
Oui, exactement. Et même Heygen, par exemple, donc Heygen, propose ça. Et là, ça évolue évidemment comme l'IA tous les jours. Leur dernière version, elle te permet d'avoir ton avatar qui, effectivement, bon, ça existait déjà, mais le niveau de qualité augmente. Hein, ce qui fait que maintenant, on a de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire que c'est du virtuel, mais en même temps, voilà, c'est très photoréaliste. Et donc là, bah, tu peux effectivement donner 15 secondes de ton image. Tu peux être en chaussons chez toi. Et tu te filmes, et puis finalement, ça te met en costume dans un beau décor, et te voilà, formateur, plongé dans un décor, dans un contexte. Ça peut être industriel, au bureau, voilà, en open space. Bref, c'est la magie de l'IA qui te permet de te plonger dans un univers, et donc bah, tu vas pouvoir générer comme ça 10, 20 vidéos à partir d'un script. On a aujourd'hui la synchronisation labiale, c'est-à-dire le mouvement des lèvres qui fonctionne parfaitement.
Très
Ça peut
bien.
être donc non seulement
Pour
en
les
français,
langues.
mais aussi multilingue, voilà, exactement. De là, imaginer que ça se déploie encore plus largement, c'est l'évidence même. Donc voilà, ce genre d'outil va forcément se multiplier.
Donc j'invite tout le monde à aller sur Edgen parce que c'est hyper sympa. Vous choisissez votre. Après, vous pouvez personnaliser, mais il faut payer, je crois, 20 euros, donc ce n'est pas non plus énorme. Mais ça permet au moins de l'essayer pour voir un peu comment vous mettez un texte. Vous choisissez la personne qui parle et la personne va le donner dans toutes les langues et votre texte est incarné. Vous le téléchargez et vous avez un short qui est vraiment très très bien que vous pouvez utiliser pour dire la formation est géniale, etc. Et quand vous trouvez ça intéressant ou l'outil, vous rentrez dedans, bah finalement vous pouvez l'internaliser pour vous, pour vos formateurs, pour vos managers. Et ils peuvent réessayer parce qu'une fois qu'ils sont filmés, bah, ils écrivent le texte, donc c'est carré, c'est propre. Et dans les entreprises, ça devrait être très très fortement intéresser les entreprises parce qu'on garde le contrôle du contenu. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? C'est un truc qui t'intéresse, ça?
Ouais,
Ou
bah,
tu te dis.
non, non, mais c'est Alors j'ai plusieurs sons de cloche parce que justement
Pareil.
j'ai deux ingénieurs pédagogiques qui sont venus sur le salon et qui parlaient peut-être de cette boîte et qui m'ont dit, écoutez, nous on a passé 20 ans, on sait vraiment faire de l'ingénieur pédagogique, c'est notre truc. Alors, moi j'en fais parce que nous on a créé 25 masterclass et j'ai passé 2 mois, hein, j'ai dû mettre une cinquantaine d'heures sur chacune des masterclass qu'on a créées en vidéo sur cet ingénierie pédagogique. Comment, pareil, je prenais le savoir-faire de quelqu'un. Je pense à, par exemple, Samir Adjouadi, président de la fondation TF1 sur l'inclusion, ou Thierry Weltley, ancien président d'RTL, rédacteur en chef de RTL. Et on a travaillé que sur ce qu'on fait. Et puis, on agence. On redistribue leurs cours et on l'écrit pour que ça soit bien face caméra. Moi, bon, j'ai coaché des gens depuis 10 ans en face caméra ou en prise de parole publique pour l'expérience et l'ingénieur PD. Donc, c'est mon truc et en même temps, je me dis, bah, donc je suis curieux de voir le résultat, bien sûr. Est-ce qu'ils
Quelque
vont faire
part, ça te challenge?
ça me challenge, c'est ça? Ben,
Ah ouais, c'est ça qui est bien.
c'est là où on va. Est-ce que ça. Alors, heureusement que moi, ça n'a pas été toute ma carrière. Moi, c'est une des choses que je fais, mais pas que, heureusement. Voilà, j'ai deux, trois personnes qui sont venues et eux, ils ont passé 20 ans. Eux, ils en ont très peur. Mais bon, c'est.
Bien
Donc, je
sûr.
suis curieux que. Je suis fasciné d'un côté, bien sûr, fasciné. J'ai envie de voir comment ça fait. Justement, je me posais la même question que vous. Est-ce que. Ou ce que tu disais là, est-ce qu'on peut pourra donner maintenant des bouts de morceaux vidéo et te les dire, un peu comme on fait maintenant avec un mail qui n'est pas génial et on donne tout en vrac et il nous sort. Super mail, est-ce qu'il va faire en vidéo? Et si tu arrives à te scénariser quelqu'un qui parlera 1 heure face caméra, voilà, en gros, en vrac, tous mes trucs, rescénarise, et puis après, en fait, il te le ferait, j'imagine, façon prompteur, et tu lis le prompteur, et tout d'un coup, tu as un super cours. Intéressant, c'est vrai que nous, les masterclass, par exemple, moi, j'aime pas utiliser le prompteur parce que c'est rare qu'un quelqu'un est bon avec un prompteur, sauf s'il a le talent acteur. Je sais parce que je l'ai utilisé. Je ne sais pas de quel cas, ça fait 20 ans que je fais de la scène, production de films, etc. Et donc, moi, dans les masterclass, j'ai utilisé juste une fois le prompteur, parce que le mec, il avait le talent d'acteur. Mais les autres, s'ils n'ont pas un talent de.
C'est un exercice, il faut maîtriser, tu as raison. Mais
Exercice
là, ce que
talent
j'aime bien
caméra.
dans ce que tu dis, ce que j'aime bien dans ce que tu dis donné comme exemple, c'est le mariage. Et c'est peut-être, je trouve que le salon, mais c'est le propre de toute la tech, est écrasé par l'IA.
Ouais.
Donc, ce qui fait qu'on oublie les fondamentaux du métier. Et c'est pour ça, par exemple, que j'avais, avec Salade Learning, Sylvain Lacaresse, c'est un exemple que je trouvais intéressant parce qu'il fait du low-tech et de l'high-tech.
Ouais.
Donc, il marie les deux. Donc, au début, il fait un jeu de plateau, une espèce de jeu de loi, etc., qu'il a créé pour dire comment je crée des modules de formation et comment je les oriente, non pas sur l'expertise, mais comment je mets l'expert au milieu de la table, on fait un groupe de personnes et derrière, on se dit à qui ça s'adresse. Lui utilise les personas en se disant c'est quoi mes apprenants. Et donc il a plusieurs personas et il a une méthodologie qui permet en très peu de temps de construire à l'ancienne des modules de formation, mais avec toutes les équipes. Donc c'est collaboratif, c'est un jeu sympa. Donc qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc ça c'est la partie low-tech. C'était un très très grand technicien de la tech, hein, qui est aussi un gros personnage de ce qu'on appelle la low-tech. Donc l'humain. Et derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des produits un peu comme tout le monde dans sa méthodologie. Et derrière, comme on a identifié des personas, ben, on demande justement aux compagnons IA, voilà, aux coachs IA, on leur demande qui sont eux pré-programmés sur les personas qui ont été identifiés, et on leur dit, voilà la formation, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, l'IA va leur dire, bah, moi je trouve que ça c'est bien, ça je m'y retrouve, ça c'est hyper kiffant, c'est marvelous comme disent les Américains, mais ça veut dire que là, il manque un morceau, là, ceci, cela, je ne me trouve pas bien, et donc ils challenge. Et donc finalement, grâce à l'IA, on est capable de produire, non pas pour les experts par les experts, mais ce sont les experts qui produisent, et après ils se frottent aux apprenants. Et les apprenants sont identifiés sans socialiser, ce qui est en entreprise, on ne peut pas essayer pour dire on rechange tout. C'est ridicule, c'est contre-productif en termes de marketing social. Donc ça veut dire qu'on s'entraîne. Et l'IA dit pas c'est bien, pas bien, mais il repose des questions, dire moi j'aurais attendu ça. Et derrière, ben, l'expert va reprendre son tableau et son plateau où il y a des outils qu'il n'a pas exploité, etc. Et va réenrichir tout ça. Et il va réinterroger le ou les profils de ses apprenants. Et donc il se retrouve face à une classe virtuelle. C'est la logique du jumeau numérique, hein. Mais ça veut dire que là, c'est tout intégré, mais sans que ça permet d'avoir de la low-tech et de l'high-tech. Et je trouvais ça assez génial, parce que ça fait que les anciens qui ont un savoir très intéressant, ben, peuvent se confronter doucement aux assistants numériques et être capables d'en faire quelque chose avec eux.
Il y a quand même deux sujets. Moi, j'aimerais abonder, enfin, ajouter quelque chose à la cause. C'est qu'il y a deux thématiques qui me paraissent vraiment importantes à évoquer. La première, ça va être Ce que je reproche encore un peu à Edgen, et je vois bien l'enthousiasme qu'il peut y avoir à se dire, ouais, on va industrialiser la vidéo, en générer plein, mais il manque quand même cet aspect humain. Et notamment, tu parlais des micro-signaux, des micro-expressions du visage. Donc, il y a notamment le chercheur américain Paul Ekman qui a beaucoup évangélisé, qui a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est vrai que sur nos visages, ça va durer quelques dizaines de millisecondes. On a des micro-mouvements qui vont aider à percevoir la. On va dire l'authenticité d'un message. C'est-à-dire que s'il y a une forme de congruence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, on se dit oui, bon, c'est bien cohérent. Le problème de l'IA, là, et ce qu'on voit bien souvent avec les outils qui existent, c'est que bah, justement, il n'y a pas ces micro-signaux. Et en fait, bah, c'est un peu. C'est pas superficiel, mais c'est. Comment dire, c'est. Je cherche une image et c'est plastique, quoi. Ça manque de vie. Et moi, bien souvent, en fait, quand je regarde une vidéo qui a été générée dans une optique de formation, bah, au bout de 2 minutes, j'en ai marre, quoi. Ça ne m'intéresse plus. Enfin, à quoi sert le personnage, l'avatar en question? Si je n'interagis pas directement avec lui, franchement, que j'entende un audio ou que je vois une voix qui bouge, c'est un peu comme le Clippy de Microsoft il y a bien longtemps. Enfin, le trombone, on s'en fout, il nous saoulait, quoi, à la fin.
Mais
Donc
c'est là où,
là.
par exemple, il y a des entreprises françaises comme, par exemple, Industrie 00, je crois que c'est son nom, que j'ai découvert à la FNAC, l'université de la FNAC, qui justement bah, travaille sur tous ces outils-là, décrypte les micro-signaux en live. Et donc, ça veut dire que. Et c'est là où c'est l'esprit start-up qui existe. Chacun est dans son couloir. Et donc, en fait, il faut s'enrichir des autres pour être capable d'avoir. Et c'est une start-up française en plus. Parce qu'on a une sur ces modélisations, Grenoble a fait énormément de belles choses. Donc, on peut industrialiser simplement bah, chacun dans son couloir et doit s'enrichir des autres.
Mais
Je t'ai coupé, pardon.
en fait, ouais, je termine juste avec ce sujet parce qu'il y a aussi un autre aspect qu'on a expérimenté tous les deux. Hein. Stéphane, je crois que je t'avais partagé un lien. Je t'avais parlé d'un outil qui permet notamment d'utiliser un prompteur pour lire un texte. Et en fait, bon, ça crée un regard plus ou moins figé, mais ça évite d'avoir, par exemple, une feuille sous les yeux et on a le regard baissé. Si on filme, c'est vrai que ce n'est pas très agréable pour la personne qui vous regarde de voir que vous avez les yeux baissés. Donc, qu'ont inventé des éditeurs. Donc là, en l'occurrence, je vais retrouver son nom. Bref, c'est un logiciel avec un prompteur.
Je crois que Facebook a
Ils
fait
ont
la
un,
même chose, si j'ai bien compris, si
ils ont,
j'anticipe.
ils ont une petite extension, enfin un petit bouton qui te permet de centrer le regard sur la caméra.
C'est
Et
ça.
en fait, tu passes d'un extrême à un autre. Tu finis par avoir un pervers qui regarde, qui a les yeux rivés sur la caméra tout le temps. Il n'y a aucun mouvement oculaire qui serait autre que figé dans la caméra. Et au bout d'un moment, tu as l'impression d'entendre parler un robot. Donc, j'ai envie de dire, il y a des bonnes idées, il y a des choses intéressantes, mais il faut quand même voir le retour du réel. Et si finalement, en termes de par rapport à des vidéos de formation, on ne constate pas que les gens restent effectivement bien scotchés par le contenu parce qu'il est vraiment chouette et que l'avatar en question apporte vraiment quelque chose, si on n'a pas ça, à un moment donné, bon, on va dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et parfois, moi, j'encourage un peu au bon sens paysan pour éviter de tomber, voilà,
Enfin,
de pas tomber dans le surarmement d'outils. Il y a des shiny objects, des trucs très sympas qui brillent. C'est vrai que c'est assez attirant.
l'effet waouh,
Voilà, mais
Arnaud.
bon. Après,
Ouais.
est-ce que ça marche vraiment sur la durée? C'est un autre sujet.
Pardon,
Après,
je.
j'aurais une autre thématique, mais voilà, je ne voulais pas non plus trop accaparer la parole. Si, si tu veux
J'aime
avoir quelque
bien
chose.
comme tu fais, tu places toutes tes thématiques. Après maintenant, je parle plus, c'est fini.
Non, 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 mais
Arnaud,
j'aurais
je
ça.
t'en prie.
Ouais, non, non, mais comme c'est un sujet que j'aime bien, je crois qu'on en vient au cœur du problème. Ça peut aider. Par contre, personne. Je crois pas que l'IA, en tout cas. Je pense pas que l'idée peut créer le désir chez quelqu'un. Alors peut-être à force de lire, mais toi, enfin moi je parle de, hein, comme je suis dans le talent management, le
Parce
coaching,
elle ne fait que ça, de créer le désir.
créer le désir. Alors on va en
Elle
parler.
est d'une puissance redoutable, c'est bien effrayant d'ailleurs.
Alors on va parler de ça, mais je te dis un exemple sur ce que tu me dis. Donc nous, donc je continuellement, moi je coach des gens, je prends des gens pour parler sur scène. On a monté beaucoup, beaucoup d'événements dans 15 pays, et moi je prends quelqu'un qui a envie de parler sur scène. Je m'en fous qu'il ou elle sache parler déjà en public. Chaque fois on me dit, ah, il y a un bon public speaker. Et chaque fois on m'envoie une vidéo, le mec trop d'ego, je m'en fous. Non, non, qu'il ait parlé 100 000 fois ou zéro, est-ce qu'il a le désir de transmettre? Est-ce qu'il a vraiment... Je te donne un exemple. On travaille avec LinkedIn Learning, qui est notre partenaire en vidéo, qui licencie certaines de nos masterclass. Et récemment, ils nous ont demandé, est-ce que tu veux trouver quelqu'un sur le leadership industriel? Et donc, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Les directeurs d'usine, j'en ai parlé plein, plein. J'en ai trouvé un bon. Et puis, on a juste essayé, même en visio. Et, oh non, Arnaud, il faut un expert de la communication. Il n'a pas le désir de transmettre. C'est un bon directeur d'usine. Il voulait un petit peu pour l'ego. Il n'a pas. Et moi, je veux un peu de chaleur. Et le mec, il voulait ça pour la visibilité. Il voulait faire une masterclass. Écoutez, ça ne va pas le faire. une autre copine, ça fait 20
Oui, mais
ans.
alors le désir, moi je
Je
suis
vais
pas
dire
tout
de
à fait d'accord avec
transmettre.
ta vision, pour le dire
Bon,
honnêtement.
je
Et donc
termine
c'est tout.
un autre exemple,
Allez,
ce qui est
un autre
pour.
exemple, mais il était clair le premier, je trouve.
Oh, d'accord. Après, on un autre exemple. Une copine qui avait envie d'essayer, elle est coach, elle est formatrice, elle est facilitatrice d'ateliers depuis 20 ans. France, États-Unis, très bonne dans son domaine. Elle rêve d'être conférencière et de parler en vidéo. Sauf qu'elle a. Elle n'a pas trop de chaleur, la vidéo, ça fait peur. On a essayé, on l'a fait venir à Bordeaux. J'ai dépensé de l'argent, trois caméras, un tournage, elle commence, elle n'y arrive pas. Et pourtant, c'est une copine, elle me connaît depuis longtemps, elle est impressionnée. Et elle a ce truc de facilité. Il faut aussi quand même, il faut vouloir un petit peu structurer, il faut transmettre. Il y a certains outils. Et pourtant, c'est impossible, on a perdu notre temps, moi, elle. Du coup, voilà, j'ai perdu de l'argent, elle est venue. T'es venu d'Aix-en-Provence, on a arrêté le tournage. Je dis, écoute, on arrive, on n'y arrive pas. Au bout d'une heure, elle n'arrivait pas, elle n'avait pas ce truc de donner de la chaleur humaine. Et pourtant, elle est coach, mais en vidéo. Donc, il y a quand même un truc,
Oui,
ça,
mais
mental, mais
moi,
ce plaisir de transmettre de la chaleur humaine. C'est quand même pas tout le
ouais,
monde qui l'a.
exactement. Donc ça,
Ça, c'est
c'est
vraiment
donc,
important.
mais y a des techniques, et ça peut être par exemple avec l'IA, ça peut être l'occasion à la personne d'apprendre par mimétisme, d'abord avec l'empathie numérique, comme dit Serge Tisseron. C'est l'occasion d'apprendre ce que disait un peu Didier aussi, finalement, d'apprendre à développer son empathie, sa contagion émotionnelle. Mais pour cela, il faut avoir un pédagogue qui ait fait le travail. Et donc, il y a des gens qui ont naturellement le talent, comme dans tous les domaines d'ailleurs, il y a des gens talentueux, ils ne bossent pas. C'est ça qui est moche. Mais moi, je n'ai pas de talent, donc je travaille. Et donc, ça veut dire que, et ça, simplement, on travaille comment? Et c'est les modalités de travail. Et quelqu'un qui, et j'aime beaucoup ton exemple, parce qu'on a tous pu rencontrer des gens comme ça, ben moi je ne me dis pas qu'elle ne peut pas le faire, simplement je ne sais pas lui apprendre.
Moi,
Voilà. Et
j'ai formé
donc.
1000 personnes en prise de parole en public. Si tu n'as pas le désir de transmettre, moi,
Non, non, moi je suis pas d'accord avec. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Tu as complètement raison de ta logique. Moi, j'ai des gens qui n'avaient pas plus le désir que ça. Et j'ai trouvé chez eux des outils. Parce que j'ai formé 800 à peu près, un peu moins de 1000. Donc, tu as plus d'expérience que moi. Mais sur des formateurs. Et moi, les formateurs, c'est de la contagion émotionnelle d'abord. Et puis, il y a des gens qui, leur contagion, ils parlent à eux, quoi. Voilà, ça veut dire qu'ils s'enferment dans le truc et ils montrent qu'ils sont des experts. Donc là, OK. Donc, ça, c'est leur point de départ. Ils partent avec ça. Et ils se disent, je suis très bien parce que je suis bon. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Donc ça n'enlève rien. Mais après, de leur apprendre à s'amuser, il faut trouver la clé. Et donc beaucoup les écouter en sparring partner, avec eux, travailler, leur montrer des choses. Ils picorent des choses. Et puis après, les mettre en situation et trouver la clé de bascule. Parce que toi, tu fais beaucoup mieux que moi dans le développement personnel. Et quand tu as trouvé la clé des gens qui étaient hyper rigoristes, qui ne bougeaient pas parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur zone de confort, ils s'éclatent sur l'autre truc. Et donc mon travail à moi, c'est pas, je sais où je les amène, c'est de trouver comment je les amène en douceur. Ou parfois en puissance, mais dans ce qui, eux, est leur zone de transformation. Et quand tu as trouvé ça, et quand j'y arrive pas, bah finalement, bah c'est que j'ai pas tout su trouver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire, mais je ne suis pas la bonne personne, si je suis honnête avec vous. Didier, toi, tu... Alors, dernier point, parce qu'on avance, on avance. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a plu encore dans le salon?
Moi, j'aimerais relater une expérience que j'ai vécue sur l'un des stands.
Que hmm
J'ai constaté une opposition farouche au niveau du staff, c'est-à-dire les personnes qui étaient sur le stand étaient résolument contre l'IA. Enfin, en
Ah
fait,
ben, très bien.
non,
Oui, c'est vrai.
elle découvrait au quotidien que c'est vrai que c'était pas mal, mais en même temps, en fait, c'était une structure qui fait beaucoup de créatifs, qui faisait du serious game. Et
D'accord.
donc,
Oui,
voilà, il y a une
forcément,
dimension
ça change.
créative. Ah oui. Et donc, il y a des graphistes, il y a des scénaristes, il y a des gens qui imaginent des dispositifs. Donc, il y a beaucoup d'humains aussi derrière tout ça. Il y a beaucoup de créativité. Et en fait, et c'est normal, les gens se disent, mais oui, mais enfin, moi, si on m'enlève ma créativité, mon rapport à l'objet, si en fait tout se fait derrière un écran, et puis que même l'IA fait tout à ma place, que devient mon job? Et puis que devient ma part de créativité? Enfin, ça devient stérile, quoi. Mon métier ne m'intéressera plus, il va disparaître. Donc, ça effraie les gens.
Bien sûr,
Et à
c'est
côté de
normal.
ça, on a des dirigeants, le patron de la structure, qui va dire, bah voilà les gars, il faut se mettre à l'IA. Et donc là, on voit bien que ça crée des tensions. Et vraiment, les gens, enfin, ils avaient presque la rage au ventre. Bah, on sent potentiellement l'ambiance dans les murs. Hein. Ça ne doit pas être triste
C'est
tous
les
les
néo-ludites, comme on dit.
jours. Ouais,
Ceux
exactement.
qui sont contre la tech.
Voilà. Donc
Mais
ce qui
oui.
veut dire qu'en fait, il faut vraiment se préparer à ces scénarios de crise, entre guillemets, où on a des tensions en interne avec bah, les pour et les contre, et à un moment donné, des arbitrages, des chemins à trouver pour faire en sorte que bah, ça se passe au mieux, parce que bon, qu'on le veuille ou pas, c'est un vrai tsunami, quoi. Donc, on va avoir du mal à
Exactement.
l'éviter.
Et ils ont. Arnaud, tu voulais dire un truc?
Non, enfin, je vois ça parce que moi, encore une fois, le milieu créatif, c'est ce qui me parle, c'est ce que j'aime. Donc,
Bien sûr.
tous les jours, ces gens qui disent on n'en peut plus, on ne veut pas, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, tous les jours, j'entends ce genre de
Et
réaction.
qu'est-ce qu'on en fait quand on a des gens comme ça qui se disent, l'IA, on va tous y aller. De toute façon, on ne va pas se poser de questions, on va
Ça,
tous y aller. Donc ça veut dire que, mais il y a des gens qui disent, comme il n'y a pas de politique d'accompagnement, il y a des gens qui doivent se débrouiller tout seuls. Comment est-ce qu'on peut les aider à ce qu'ils rentrent dans le changement, qu'ils ne comprennent pas, que la marge est trop élevée pour eux, donc ils n'ont pas envie, quoi.
ce qui est sûr, c'est que j'ai deux choses qui me viennent. Ça va aider, je pense, hein, ce qu'on appelle les. Alors moi, je ne sais pas, les HPI, tout ça, je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais je suis sûr que par contre, il y a 10% des gens qui sont neurodivergents, qui pensent un peu différemment. Par contre, je pense que l'IA, ça va les aider. Parce qu'ils ont,
Oui, exactement.
vraiment du mal à se structurer. Donc là, foutre toutes leurs idées sur l'IA, comme tu dis, Didier, que ça te donne un North Star, un cap, suivre et qui structure un peu des choses, ça va vraiment aider. Ça, il faut comprendre que les gens purement créatifs, complètement désordonnés, ça va les aider. Alors, les créatifs et très ordonnés, très, très, j'ai l'impression dans ce que je connais, créatifs et très organisés, il y en a, ça leur fait peur. Mais les créatifs désordonnés, ça va normalement les aider. Alors, moi, ce qui me fait peur, je t'avoue, hein, j'ai écouté ce que tu parlais au début de la conférence, que ça, on va devenir moins intelligent. Et c'est vrai que j'entends de plus en plus ça. Et là, on en parle de dette cognitive, j'ai entendu ça souvent. Même moi, ça me fait peur. Je dis, c'est pas risque.
Bien sûr. C'est une vraie question sociétale et donc la société doit répondre à cette question. Donc c'est ce que Bernard Stiegler appelait l'externalisation des savoirs et donc ça, il appelait une paupérisation cognitive, pour donner des mots techniques, etc. Et donc, je vous invite à aller rechercher dessus. Moi, puisqu'on arrive à la fin, puis après, je vous demanderai, pour la prochaine session de salon, qu'est-ce que vous aimeriez voir que vous n'avez pas vu sur le salon là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Avoir une idée chacun. Donc, moi, j'ai vu un truc qui m'avait plu. Je suis allé voir le pitch, ce qui est souvent commun, mais donc il y avait plusieurs, il y avait le, moi j'ai vu celui du Laberage qui en a fait deux, donc j'en ai vu qu'une seule, et on voyait des gens qui étaient des start-upeurs, qui avaient le courage de se lancer, donc déjà bravo aux gens qui se lancent, vraiment un grand respect pour tous ceux qui ont plein d'idées mais qui se disent j'ai pas la matière, l'émotion pour y aller. Par contre c'est sur la façon de faire des pitchs. Voilà. Et donc je les ai regardés, c'est vraiment des pitchs à la française, on est centré sur le produit. Alors, je voulais vous donner un exemple. J'ai vu Cocobot qui est venu me voir, qui m'a démarché sur mon stand et qui m'explique. Et donc, Cocobot, c'est vraiment l'archétype de ce qu'on présente. Et elle me dit, je fais un compagnon IA, il est génial, donc qui utilise les soft skills. Et elle me développe toutes les idées, toutes les fonctionnalités de son compagnon IA qu'elle a créé. Donc, c'est la fondatrice. Hein, donc, alors, son nom, je l'avais, Alska de Breza. Donc comme ça, je l'ai cité. Donc très très bien, l'outil peut rendre service, mais pénible dans le pitch parce qu'elle me parle du produit. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est dire j'ai un problème. C'est ce que les Anglo-Saxons font. Et Arnaud, tu pourras confirmer parce que tu as fait beaucoup plus de présence sur place que moi. Moi, j'ai fait des salons où je voyais des gens pitcher au Canada, par exemple. Et donc l'élément, c'était de dire, eux, ils disent, bah, le responsable de formation, les soft skills, c'est pas les mesurer. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir un ROI, on n'a pas de métrique qui permette de faire ça. Et aujourd'hui, c'est un gros problème face à la culture du responsable de formation. On soulève le problème. Et là, avec Cocobot, ben, on a la solution, c'est qu'on permet aux gens de travailler en toute intimité et de mesurer. Et voilà. Et c'est quand on fait des pitchs à la française, ils sont souvent pénibles parce que les gens disent ma solution est bonne, etc. Ben, ah, dites, on rend service. Parlez de votre interlocuteur et soulevez des problèmes, mettez des chiffres, etc. Et expliquez-leur que vous êtes la solution. Quasiment, vous ne parlez pas du produit. Parlez de leurs problèmes. Et là, les gens vont dire, mais c'est exactement ce que je rencontre. Et là, ça me plaît. Et on n'a plus besoin de pousser de la vente. Les gens disent, mais comment vous faites? Et c'est eux qui viennent chercher de l'information parce que vous avez tapé juste. Donc, c'est deux salles, deux ambiances. Mais je trouve que pour avoir fait beaucoup de jury sur de l'EdTech en France, c'est souvent. Et on rentre. Et le pire, c'est de rentrer dans la technique. Alors là, ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque en se disant, mon produit est bon. Et on se dit, à un moment, on va le chercher. Donc, allez chercher les problématiques des autres. Vos acheteurs et répondez à leurs problèmes. N'hésitez pas. Arnaud, toi qui as beaucoup d'expérience là-dessus, peut-être.
Oui, j'ai 3 heures. Hein. On peut en parler 3 heures parce que je connais ça par cœur.
On va faire ça court quand même.
Oui, alors, mais dans 5 8 minutes, il faut qu'on arrête. Je suis en train de prendre un abandon. Mais oui, juste un exemple. J'ai coaché la French Touch à New York, qui était ce gros événement tech, ça n'existe plus maintenant, où ils amenaient des tonnes de startups devant 1 000 personnes
SES.
dans les années. Pas au CES, mais à New York. Et j'ai travaillé avec beaucoup de gens de la French Touch. Et chaque fois, donc, je faisais le. le coach en coulisses, je l'ai préparé en pitch. Je me rappelle ce mec, mais arrête, je suis pas un acteur, c'est quoi ce show? C'est tous des acteurs, il y a un côté show. Et dans le show, il y a l'émotion. Et dans l'émotion,
Exactement.
mais presque, presque je me bagarrais. Putain, mais je suis là pour t'aider. Tu donnes de l'émotion, tu connectes aux gens. Pourquoi? Parce qu'en France, on vient de l'intelligentsia. Il faut paraître intelligent. Hein, paraître sympa, c'est suspicieux. Paraître de l'émotion, c'est suspicieux en France. Là, c'est vraiment l'inverse. Je te donne un exemple. J'ai fait je ne sais combien à New York, j'ai vécu 10 ans, des pitchs franco-américains. D'un côté français et les Américains, je m'en rappelle toujours, le mec qui vient du 22 ans, du Missouri, un produit plutôt banal, bon, sympa, mais il a tellement la confiance, puis le
Ouais.
storytelling, il est vulnérabiliste, on sent qu'il a vraiment envie de réussir, mais il touche les gens aussi avant de son produit. D'abord, il touche les gens, voici mon histoire, voilà à quoi j'ai pensé un jour, j'étais pas bien, j'étais dans le cafard, et puis j'ai pensé à ce produit, boum, boum. Et les gens ont envie de l'écouter, bien sûr, il est vulnérable. Et le français, alors voilà, j'ai fait HEC, Polytechnique, qui sont, vous savez, les plus grandes françaises, plus grandes. Je l'ai bossé dans les plus grandes boîtes et puis avec une équipe pendant 7 ans, tous les soirs, on a bossé sur ce produit et ce produit techniquement. Regardez le graphe, l'écosystème chiant à mourir. Et donc, bah, qui c'est? Les investisseurs, ils allaient vers qui? Bah, le mec de 22 ans, plein de confiance en lui. Et là, on ne comprenait pas le mec de 30 ans, mais attends, moi j'ai tout fait. En gros, je suis brillant. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'on a été à mettre l'intelligence intellectuelle en France, pas l'intelligence humaine. Pas l'intelligence des émotions. Ils ne le comprennent pas. Et certains, vraiment, je sais, ne le respectent pas. J'ai un ami, je ne peux pas dire
Et
ça.
donc là où justement, parce qu'on arrive à la fin, je te coupe parce que j'aimerais bien avoir votre idée sur les idées. Mais ça pourrait être une possibilité de collaboration avec le salon, que tu puisses justement coacher les gens qui vont faire des pitches, que ce soit EdTech, le village EdTech, ou que ce soit l'ABRH. Et ça les aiderait, ça serait une vraie, parce que je l'ai fait avec deux, trois personnes qui sont venues me voir, parce que je leur ai décortiqué leur argumentaire, mais toi, tu as plein de choses à leur apporter, et ça leur serait très utile pour des gens qui démarrent et qui ont en tout cas le courage de lancer des startups. C'est un type, ce qui peut intéresser. Donc, Didier, alors puisqu'on arrive à
Ouais.
la fin, je
Il y a un
bouscule
vrai
pour
sujet, enfin,
garder.
sur le rapport à l'émotion, ça mériterait une vraie émission en soi parce que, il y a des choses très éclairantes qu'on pourrait partager. Enfin, moi, j'ai un parcours d'ingénieur plutôt au départ, hein. Je suis plutôt scientifique. Et pour
Désolé.
moi, la psychologie, la compréhension des mécanismes de la pensée humaine, ouais, c'est pas un truc majeur. Les années ont passé, c'est autre chose maintenant. Et je pense que par rapport à la perception enfin, en termes de communication, aller vers plutôt le rationnel ou plutôt l'émotion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette cassure-là? J'ai vraiment des choses à partager à ce sujet.
La
Donc, on
raison
verra pour la
sensible,
prochaine
qui est le
fois.
mariage des deux, donc creuser là-dedans, il y a des plein de belles choses.
Par rapport
Alors,
à,
qu'est-ce que toi
par
tu
rapport au
verrais
salon.
pour. Voilà,
Alors, justement,
merci.
par rapport au salon, il y a en fait un truc intéressant qui a été dit sur l'un des stands. Quelqu'un me disait, ils étaient dans la logique d'outiller le recrutement, enfin, la recherche d'un candidat, donc en relation avec tous les job boards et tout ça. Donc, il y a plein d'outils formidables qui existent. Et il me disait, bah, parce qu'on parlait d'IA, bah, vous savez, en ce moment, il y a des annonces. Les annonces, et bah, voilà, on cherche un manager qui va occuper tel poste, et en fait, il va devoir gérer 3 commerciaux et puis 8 agents IA. Donc, on va demander au
Oui,
niveau des CV, des
exactement.
qualifications, d'avoir une capacité à dialoguer avec des agents IA. Et donc, moi, pour l'année prochaine, je pense qu'on va commencer. Doucement aller vers ça, bah avoir des outils qui commencent à aider à manager des équipes avec bah, de l'humain évidemment, mais aussi des agents. Et donc là, comme tu le sais, c'est un sujet dont on parle. Moi-même aujourd'hui, je déploie des petites équipes agentiques, donc je suis manager finalement d'agents IA. Et la question que je suis en train de me poser, c'est bah, en termes d'outils, de gestion de projet, à quoi ça va ressembler en fait, les nouveaux outils qui vont intégrer cette dimension IA opérationnelle. Ça, évidemment, pour moi, en 2027, ça sera un sujet du salon.
Bravo, donc t'as très très bien. Arnaud, toi, l'idée pour le salon de tes rêves pour la
Ouais,
prochaine fois.
un super débat. Ceux qui sont absolument contre l'IA, qui n'en veulent plus et qui disent toutes les catastrophes du LIA, mais vraiment débat presque humoristique. Et ceux qui disent c'est avec canon et voici tous les plus. Ça serait marrant.
Exactement.
Le
Ah,
débat.
pas forcément humoristique d'ailleurs, parce que tout le monde n'a pas forcément beaucoup d'humour, mais c'est très intéressant de faire la rencontre. Et donc, on voit ce qui s'en sort. Et tous ceux qui sont dans le salon bah, vont s'enrichir en disant bah, je me reconnais sur l'un sur l'autre et voir un peu comment c'est. C'est exactement très intéressant. Passionnant en termes d'émotion. Alors, moi, l'élément que j'avais, c'est je me disais avant notre mot de fin à tous, c'est le fait de dire qu'il manque. Donc, aujourd'hui, on a été au début, il y a ça un an ou deux, on disait il faut faire de l'IA. Voilà. L'IA, c'est vachement important, ça va tout changer. Maintenant, on commence à avoir des solutions IA, des gens qui tentent des choses, donc des produits IA qui sont modestes. Mais demain, ce qui est intéressant, c'est les usages. Et moi, l'idée, c'est la transformation heureuse de l'IA. Voilà. Là, comment est-ce que, non pas, bon, on va changer avec l'IA, on est tous d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour que ça change et comment est-ce qu'on fait dans les métiers? On a parlé des pédagogues, on a parlé des formateurs qui vont être, qui vont, des managers de formation, des organismes de formation. Qu'est-ce que ça change pour eux et comment est-ce qu'on change ensemble? Et ça, c'est la socialisation qui me paraît intéressante. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui se dise dessus dans tous les salons, même quand on voit dans les salons que je suis qui sont à l'étranger. Dans ces cas-là, c'est des sujets qui ne sont pas abordés. On reste sur l'effet waouh. Qui est génial, on met un robot, c'est extraordinaire, mais derrière, ça repose toute la question, et ça renoue avec ce que disait Arnaud, c'est-à-dire qu'on fait un débat, et donc ça permet à chacun de poser du verbe, de poser des idées, on prend sur les neurosciences, quand je disais que ça rend idiot, oui, mais pas que, et ça dépend comment est-ce qu'on l'utilise, et donc d'avoir ce côté un peu taquin, que j'aime bien, pour derrière donner des matériaux et des méthodologies de transformation. Dans ce que j'ai senti dans les gens, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie... Les gens étaient perdus. Et donc, ils avaient besoin et donner un peu ce côté guide, c'est quelque chose qui me paraît intéressant pour le prochain
Il y
salon.
a un point super important. Enfin, avec ta conférence, tu l'avais évoqué, il y a une acculturation qui est indispensable. Mais le problème, c'est que ça passe par l'intelligence des doigts. C'est que tu peux assister à plein de conférences, lire des bouquins. Si tu pratiques pas, tu peux pas découvrir en fait l'étendue des possibilités. Et ça, c'est itératif. C'est-à-dire que c'est un processus qui est un peu lent. Moi, je partage ce conseil qui est mais pratiquer au quotidien, c'est hyper important. Faites des prompts, faites un peu n'importe quoi au départ. Vous verrez, corrigez vos erreurs. Et c'est donc indispensable de se former, d'être guidé pour pas perdre trop de temps parce qu'on peut aussi aller sur des chemins de traverse. Mais en tout cas, la pratique, elle est indispensable et elle prend du temps. C'est ça qui m'inquiète un peu par rapport
Tu
à
dirais,
ce
pour
que
le mot de
j'ai
la
dit.
fin, tu dirais just do it?
Just do it, pratiquez, formez-vous, montez en compétence parce que ça va vite et le temps va être précieux.
Merci Arnaud, le mot de la fin.
Collaboration. Robot,
C'est
humain.
un beau. C'est vrai que j'avais été. C'est un mot précis, merci. Ça m'a surpris, donc ça ne faisait pas une phrase, mais bravo, très bien. Impeccable, merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce format, si ça vous a intéressé, si vous êtes d'accord avec des gens, si vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde a raison, tout le monde a ses raisons et on respecte toutes les raisons. En tout cas, dites-nous ce que vous avez aimé de ce format et comme ça, si ça vous plaît, ben, on le refera. Et donc, si les gens qui sont venus vous ont plu, dites-le aussi, c'est toujours bénéfique. Dites-leur directement sur les réseaux sociaux. Si on veut vous contacter, Didier, comment est-ce qu'on fait pour te contacter?
Par LinkedIn, Didier Castelnau. Voilà, je suis assez disponible. Après, sinon, il y a le nom de ma structure, castimedia.com. Il y a un formulaire de contact.
Exactement. Arnaud, comment est-ce qu'on te contacte, tous les gens qui t'ont aimé?
C'est simple, hein, 10 rue Legendre, troisième étage, code.
Oui, alors oui, alors bonne remarque, effectivement. Donc bon, on va pas le faire la prochaine fois avec tout le monde.
Arnaud, c'est simple. Arnaud at humanava.com
T'es
avec un
plutôt
H.
LinkedIn?
Oui, LinkedIn, Instagram, Facebook.
Très bien,
Arnaud,
bravo.
Coderry.
Merci à tous. Au revoir. Bye bye.
Salut.
Salut.